Bonsoir tout le monde. Content de vous retrouver, bien sûr, pour une nouvelle édition des Amateurs de sport. 18h30, un bon début de soirée. Aussitôt la première ronde terminée, on est déjà prêt à repartir dans la Ligue nationale de hockey. Deux matchs sont présentés ce soir et on a déjà hâte de voir comment une équipe comme les Bruins, qui vient disputer son 7e match, va pouvoir se comporter à domicile devant les Blue Jackets de Columbus, qui, eux, sont inactifs depuis près d'une semaine. Donc, on va en discuter, évidemment, dans les prochaines secondes. Parmi nos invités ce soir, Marc-Édouard Vlasic, qui réagit au fait que la Ligue nationale s'est excusée, semble-t-il. En tout cas, la Ligue nationale n'a pas émis de communiqué là-dessus, mais selon les dires de George McPhee, la Ligue se serait excusée auprès des Golden Knights de Vegas pour les décisions prises par le duo d'officiels Furlatt et O'Halloran mardi soir lors de la fameuse partie qui s'est dénouée d'une façon tout à fait inattendue avec 4 buts marqués par les Sharks pendant un avantage numérique à la suite d'une pénalité majeure imposée à Eakin. Même Marc-Édouard, vous allez l'entendre tout à l'heure, dit bon, peut-être c'est un 2, peut-être c'est un 4, mais lui, c'est ça, surtout la contre-performance de Vegas en désavantage numérique qui l'interpelle. Donc, c'est un entretien à ne pas manquer. Aussi avec nous, Maxime Talbot, qui revient à peine de Russie, où il vient de disputer une finale avec l'équipe de Bob Barclay en KHL, qui songe plus que jamais peut-être avoir disputé son dernier match dans le hockey professionnel. Alors, c'est à ne pas manquer. On va revenir sur plusieurs autres éléments, dont la superbe victoire de l'Impact de Montréal hier sur la route. Il y avait peu d'attente. On se serait peut-être même contenté d'un verdict nul. L'Impact qui repart de là avec 3 points. Et ma foi, avec la performance de plusieurs jeunes, je dirais encore plus d'espoir pour la suite des choses. L'équipe qui n'a disputé jusqu'ici qu'un seul match à domicile. Alors, c'est fort intéressant tout ça. Ouvrons les choses, ouvrons les discussions avec notre ami Danny Dubé dans un premier temps, qu'on va retrouver à l'instant. Bonsoir, Danny.
Bonsoir, Mario.
Alors, Danny, juste avant de commencer, premièrement, commentaire à l'élimination des Caps de Washington. Il leur manquait quelque chose. Ils ont donné un gros coup en début de match, mais on dirait qu'ils avaient pas ce qui... Alors que les Hurricanes, eux autres, ça pliait, mais ça cassait jamais.
Ouais, t'as raison. Ça, c'est la caractéristique des Hurricanes. Il y a un petit peu de magie dans le vestiaire, dans l'entourage de l'équipe. Je dois bien t'avouer que j'étais un peu déçu de la performance de Oldby pour un match numéro 7.
Surtout sur le but du Stahl, hein?
Oui, c'est ça. Et sur le premier but du match, en désavantage numérique, celui de Sébastien Aho. Pour moi, en tout cas, là, c'est un but qui aurait pas dû avoir lieu. Mais quoi qu'il en soit, ça me rappelait un peu le match des Bruins, justement, face aux Leafs, alors que les Leafs n'ont pas eu vraiment de soutien de la part de leur gardien. Et sans jeter la pierre exclusivement sur le gardien de but, il reste que l'effet stabilisateur, la confiance qui se dégage d'une bonne performance, je te dis pas d'une performance magique, mais juste d'une bonne performance, permet aux joueurs de jouer avec aisance. Après le troisième but, là, les Caps, ça n'a plus été la même équipe. Ils jouaient, ils étaient ébranlés. En tout cas, moi, je les ai sentis comme ça.
Oui, vraiment, vraiment. Puis je sais pas jusqu'à quel point ils ont été frustrés du dénouement du 6e match. On dirait que les équipes qui manquent leur coup dans le 6e, c'est difficile de se reprendre dans le 7e, Danny, hein?
Oui, ben en fait, peut-être pour des raisons différentes, moi, j'ai vraiment l'impression que les Capitals de Washington s'attendaient à une série plus facile. S'attendait à jouer,
erreur.
Tu sais, là, 5 matchs, on va se débarrasser d'eux autres, là. S'ils sont là, là, mais bon, on est obligé de les jouer, là. Tu sais, ce genre de comportement ou d'attitude-là. Tu sais, lorsque tu vas en série, faut que tu sois prêt à, tu sais, lorsqu'on utilise l'expression, faut être prêt à aller à la guerre. Ce que ça veut dire, dans le fond, pour les gens qui nous écoutent, si vous vous demandez des fois comment on galvaude les expressions, ben, c'est un peu ça, c'est de pas faire aucun compromis puis de pas rien laisser, c'est-à-dire de tout donner, de rien laisser dans le réservoir. Et je pense que les Capitals se sont retrouvés un petit peu malgré eux dans une situation qu'ils ne voulaient pas vivre. Mm-hmm. Tandis qu'à l'inverse, ils étaient contents d'être là. J'ai vu des images, là, les joueurs souriant sur le banc des Hurricanes, mais durant le match, alors que la pression était à son maximum, à son apogée.
Quel leader, Justin Williams? Parce que quand exactement. Tu dis ça, je revois le gros plan sur Justin Williams.
Oui, ben oui.
Qui dégage, veut pas. Il y a comme, ça peut pas être un hasard que toutes les équipes avec lesquelles il évolue connaissent du succès, bien que les Hurricanes soient pas encore rendus à la finale, mais quelle contribution du capitaine?
Oui, exactement. Puis, quand tu vois des sourires sur le banc comme ça, c'est sûr que, regarde, c'est peut-être la lune de miel de Rob Brind'Amour, mais il y a quelque chose que j'ai aimé, puis, je pense que c'est très important qu'un entraîneur aussi stratégique, tactique, réfléchi soit-il, n'étouffe jamais le plaisir. de son équipe. Il doit plutôt cultiver le plaisir. Donc, trouver une façon de rendre le parcours intéressant, stimulant. Puis j'ai vraiment senti tout au long de la série que les Hurricanes, bon, honnêtement, je pensais pas qu'elle allait gagner le match numéro 7, mais quand j'ai vu jouer Oldby, je me suis peut-être, là, je me suis mis dans leur bottine, puis je dis, écoute, il va leur donner espoir. Parce que au début du match, là, on voyait vraiment les Capitals, c'était le rouleau compresseur, dominait l'adversaire.
Oui.
Puis, mais aussitôt qu'il y a eu un peu d'hésitation de la part d'Oldby, aussitôt qu'il a ouvert la porte, là, écoute, l'équipe des Hurricanes s'est transformée. Et ça nous ramène à la déclaration de l'entraîneur après le match. Ces gars-là sont jamais morts, n'abandonnent jamais. Alors,
ils sont humbles aussi, ils se prennent pas au sérieux comme ils l'ont démontré avec leur célébration de match cette année. Ils ont été, ma foi, je les comparais pas à Vegas, parce que Vegas, c'est un club de l'expansion l'an passé, mais il reste qu'il y a quelque chose qui se dégage. Je pense qu'on pourrait utiliser l'équipe la plus sympathique de la Ligue cette année. Je suis sans doute pas le premier à utiliser le qualificatif parce que c'est ça qui dégage.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, c'est quand même une équipe assez jeune. Quand tu regardes la composition de l'équipe, c'est quand même pas une vieille équipe.
D'ailleurs, au-delà d'avoir des jeunes qui s'expliquent en partie leur situation salariale, écoute bien ça, Danny, puis tu l'as sûrement déjà constaté, mais parmi les 8 équipes toujours en vie, les Hurricanes de Caroline sont l'équipe qui a dépensé le moins cette année. Ils sont 16 millions en bas du plafond salarial. Les Islanders sont près de 10 millions en bas du plafond. Columbus, 3,6. Boston, 2,8. Dallas, 522 000. San Jose, 371. Saint-Louis, 586. Et Colorado, 10 millions sous le plafond. Donc, les deux équipes qui ont le moins dépensé cette année, on pourrait même ajouter les Islanders là-dedans. Islanders, Colorado, Caroline, rendus au deuxième tour. C'est quoi l'histoire? C'est quoi la morale,
c'est la qualité, ou la logique ou la morale, c'est la qualité de tes jeunes joueurs. C'est aussi simple que ça. Les équipes qui dépensent moins et qui ont du succès, c'est parce que les jeunes sont bons. Mais sinon, les joueurs qui sont bons te coûtent une terre en bois de bout, comme disait mon grand-père. C'est sûr que c'est pas ça. Alors, ça nous ramène à l'équation.
De ça ébranle les colonnes du temple, en tout cas. Hein?
Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Tu sais, les Leafs de Toronto, là, Tavares se retrouve là, c'est parce qu'ils ont de l'argent sous la masse salariale, c'est parce que les jeunes sont jeunes, mais on arrive déjà, là, ça frappe à la porte, et on se bouscule à l'entrée, là. Déjà, ça va être un problème récurrent dès l'an prochain, dans les prochaines années, ça, c'est sûr.
Avant de poursuivre avec les séries éliminatoires, Danny, commentaire sur le fait que le Canadien a annoncé aujourd'hui un contrat d'un an. On s'est entendu avec le vétéran joueur de centre, Nate Thompson, 1 million pour la prochaine année. Réaction?
Je suis un peu déçu de voir Thompson dans l'entourage de l'équipe. Nate Thompson est un chic bonhomme, très sympathique, mais je parle pour le profil du joueur. Là. Je me dis, tu sais, à un moment donné, si tu veux avancer, tu peux pas avoir des joueurs de cet âge-là avec ce statut-là dans ton organisation. Je comprends que c'est un joueur de profondeur et tout ça, mais c'est peut-être une police d'assurance, une garantie. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas, là. Bon, est-ce qu'on a...
Comme Plekanec l'an passé, genre?
Exactement, mais Plekanec, c'est un autre dossier complètement, dans le sens où, tu sais, tu te dis, Plekanec, il vient finir sa carrière à Montréal.
Ouais.
Puis c'est comme son dernier tour de piste, puis c'est un joueur qui a été repêché et développé par le Canadien.
Il semble qu'on l'a beaucoup aimé au niveau attitude, puis probablement pour le niveau hockey.
C'est sûr, mais il reste que... Écoute, le virage jeunesse doit s'effectuer, puis dans quelle mesure on voit son rôle comme étant un rôle de important, ça je ne sais pas. Mais à la fin de ces séries, on pourra se reparler de l'importance du quatrième trio. On va attendre à la fin, Mario, là. Mais je peux te parier un petit 2 qu'on va parler du quatrième trio de l'équipe qui gagne la Coupe Stanley cette année, plus que les autres années.
Sais-tu combien de joueurs de 30 ans et plus alignent les Hurricanes de la Caroline Danny?
Oh, c'est une bonne question, je ne sais pas.
2, en incluant Curtis McElhinney, qui ne joue pas actuellement en série, et l'autre a 30 ans, c'est Jordan Staal. Ah, j'oubliais Justin Williams, excuse-moi. Donc, ça veut dire 3 avec McElhinney.
OK.
C'est quand même intéressant.
Ça en dit beaucoup sur...
Tu sais pas que c'est le seul modèle? Je pourrais aller d'une autre équipe, on en aurait d'autres, là, mais là, on parle de la Caroline.
Non, mais tu prends... regarde, prends la situation de Columbus, par exemple, qui vont avoir à laisser partir des joueurs à l'autonomie, là.
Mm-hmm.
Mais il reste que Pierre-Luc Dubois, c'est un jeune joueur. Seth Jones est encore un jeune joueur. Et même si les joueurs coûtent plus cher parce que, bon, Werenski, même chose, mais il y a quand même un noyau de jeunes, de très jeunes joueurs qui sont vraiment intéressants, sur lesquels ils peuvent bâtir pour encore quelques années à venir, j'en suis convaincu.
Colorado, je viens de faire le même exercice en continuant de t'écouter, bien sûr. Ils n'ont pas beaucoup. Derek Brassard, qui est là de passage. Oui. Il a 31 ans. Carl Soderberg a 33 ans. Ensuite de ça, tu as Yann Cole qui en a 30. Eric Johnson, 31. Alors, c'est une équipe. Puis tu as Varlamov, qui est l'auxiliaire actuellement de Grubauer, qui est à 30 ans. Alors, ça vient renforcer un petit peu.
C'est ça.
Et c'est ça qui leur permet de ne pas dépenser beaucoup. Mais là, en plus de ça, ce qui est assez spécial, et sais-tu quoi, avec des espoirs beaucoup moins en vue que, par exemple, des équipes comme Edmonton ont aligné, ou même Toronto. C'est étrange, pareil, qu'ils semblent connaître, en tout cas, ils passent à la deuxième ronde, à tout le moins. Peut-être qu'ils sont pas tombés sur leur bête noire comme Toronto.
Exactement. Face à Boston, c'est ce que j'allais dire. Ça dépend des confrontations. Puis, tu sais, nous autres, on regarde aussi les matchs, puis on se dit, bon, écoute, là, les deux équipes repêchées de cette année ont passé à la deuxième ronde. C'est quand même pas rien, là. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il y a des équipes de tête qui ont tombé.
Mais j'ai pas eu le temps, parce que c'est tout un exercice, puis j'ai regardé ce que quelqu'un l'avait fait pour me sauver cet ouvrage-là, Danny. Mm-hmm. Mais je serais très curieux. Si on faisait un classement des 41 derniers matchs de l'année, peut-être qu'on serait pas si surpris de l'allure des séries actuellement.
Peut-être. C'est sûr que les équipes qui ont fini en force, qui ont terminé en force, c'est les équipes qui souvent sont obligé de terminer en force pour rentrer dans les séries.
Oui.
Donc, ça, c'est un premier élément. On compte aussi, on regarde le calendrier, puis on le divise en deux, c'est un réflexe, c'est tout à fait normal. Mais ça nous donne une idée de l'importance des transactions. Quand tu as une période de transaction, il y a des équipes qui vont considérablement s'améliorer avec les transactions. Pas toutes, mais certaines d'entre elles. Puis l'autre chose, c'est que quand tu te compares, il faut que tu regardes comment tu te mesures à l'équipe à laquelle tu te confrontes en série.
Oui.
Tu sais, dans le sens que, tu sais, on peut regarder les 96 points du Canadien, mais il faut regarder les 96 points du Canadien dans une perspective où ils ont joué contre la Caroline, ça n'a pas été un succès. Quand ils devaient gagner, ils l'ont pas gagné, même si le calendrier était contre eux.
Mm-hmm.
Mais je suis sûr que le Canadien se dit, nous, là, la Caroline, on était capable de jouer contre eux.
Ouais.
Puis ils ont probablement raison. Mm-hmm. Parce que, par contre, face à Columbus, ils ne faisaient pas le poids. Après la période de transaction.
C'est différent. C'est sûr qu'il y a quoi de différent.
Les séries, la beauté des séries, c'est que quand tu entres en série, tu as toujours le même opposant. Puis des fois, il y a des espèces de confrontations. Mm-hmm. Tu as des adversaires qui sont plus coriaces parce qu'ils cadrent plus, ils ont plus de succès contre le système de jeu que tu préconises.
Mais il reste que le plafond salarial, la parité, fait en sorte que c'est ça qui crée ces conditions-là. Et c'est pas pour rien que dans l'ère moderne, les champions de saison régulière gagnent moins souvent la Coupe cette année. Les derniers à l'avoir fait, c'est les Blackhawks de Chicago. Parce que si tu remontes avant 2005, ça arrivait plus souvent. Parce que souvent, c'était les équipes qui dépensaient le plus. Pas toujours, mais la plupart du temps, il n'y avait pas de plafond. Les équipes qui dépensaient le plus avaient généralement de bonnes fiches, puis avaient des chances de compléter la victoire. Et autant en série qu'en saison régulière. Juste pour compléter.
Format, non? Le format des séries, tu ne penses pas que le format, tu sais, que les équipes de milieu de peloton.
Peut-être un petit peu, mais moi, je pense qu'il y a des équipes mieux nanties. Là, toutes les équipes sont sous le même pied ou à peu près, tu sais. Alors, je pense qu'il y a beaucoup moins de choses pour créer une certaine disparité. Mais je ne peux pas exclure ce que tu avances non plus par rapport à la formule. Mais là où je voulais revenir pour compléter sur l'histoire de l'âge, parce que tu as affiché une mini déception, une certaine déception de voir Thompson revenir. Il faut quand même être fair ou être juste par rapport aux Canadiens. Dans le personnel d'attaquants, c'est le seul trentenaire. C'est le seul. Alors, on sent sans aucun doute le besoin, on a sans doute constaté qu'il amenait quelque chose qu'on n'avait pas pour le garder autour. On verra quelle sera sa mission.
Ouais, moi, la seule chose que je te dis par rapport à ça, Mario, puis comme je te dis, là, je sais que c'est un bon gars, que c'est un bon gars dans l'entourage de l'équipe. C'est le profil du joueur, de la personne, c'est-à-dire, j'ai aucun problème avec ça. C'est le profil du joueur qui me dérange un peu, puis je complète simplement en disant que, pour moi, j'ai l'impression que dans les années à venir, les joueurs de quatrième trio vont être de plus en plus dynamiques et de plus en plus capables de contribuer offensivement, ce que je pense qu'il va être difficile pour Thompson l'an prochain.
Ah, ça c'est clair. Est-ce que tu penses que ça... Là, est-ce que tu serais déçu, par exemple, si à la défensive, on renouvelait un gars comme Jordy Benn qui a 31 ans? Tu le vois pas du même angle?
Pas du tout, non. Parce que c'est pas le même... le Canadien n'a pas la même profondeur du côté gauche. Ils ont besoin de Jordy Benn ou d'un Jordy Benn.
Je dirais même qu'il y a un certain pouvoir de négo.
Oui, oui. Écoute, il a été bon cette année, lui-là. Il leur a rendu des fiers services.
Vraiment.
Il a vraiment passé. Ses performances ont vraiment passé sous le radar. Mais moi, après, vraiment, là, quand tu parles de la quatrième étoile, après David, après Philippe Dano, c'est lui, là. T'es héros obscur de l'équipe.
Ah, je suis d'accord.
Gars,
je suis d'accord.
Lui, là, il a rendu de fiers services, des avantages numériques, il a pris des minutes, il a joué à gauche, à droite, il a été très polyvalent, on a utilisé. C'est sûr qu'il est plus efficace à gauche pour toutes les sorties de zone, les relances, etc., parce qu'il est moins, il se trouve moins souvent sur son revers, donc il fait des meilleures passes. Mais le net-net à la fin de l'équation, c'est que c'est un joueur qui a rendu d'énormes services à l'organisation.
Danny, on va aller à la pause, mais juste avant d'y aller, un avant-goût de l'entretien que nous réserve aujourd'hui Marc-Édouard Vlasic.
Okay.
Et un extrait où il réagit au fait que la Ligue se serait excusée par rapport à la décision prise par le duo Hall-Aaron et Furlatt. Et d'ailleurs, tel que Ron nous le précisait avec beaucoup de vigueur et d'assurance hier, c'est terminé pour eux l'aventure des séries. Je veux t'entendre, voir si c'est la bonne sanction au retour. Et on va à la pause sur les propos de Vlasic par rapport à ça.
Quand quelqu'un signe énormément, si c'était nous autres ou si c'était un des joueurs de Vegas qui aurait saigné de même. Tu sais, les arbitres n'ont pas vraiment le choix de donner un 5 minutes à cause des circonstances. Ça méritait-tu un 2 ou un 4? Oui, peut-être. Mais s'excuser, c'est bon par rapport à la Ligue, mais tu sais, la Ligue peut pas s'excuser que les Knights ont accordé 4 buts en désavantage numérique. Tu sais, tu mènes 3-0 puis on score 4 buts, là, c'est un peu votre faute là-dessus.
En compagnie de Danny Dubé, Marc-Édouard Vlasic sera là tout à l'heure. T'as entendu l'extrait juste avant la pause, Danny. Toute une déclaration de Marc-Édouard. Hein?
De la dynamite, ça. Écoute, wow. Mais je veux dire, je comprends les joueurs à un moment donné de ramener ça au jeu, sur la glace.
Il y avait juste à pas donner 4 buts en 5 minutes.
Et moi, c'est dans... Écoute, j'ai fait des matchs de Ligue nationale avec Martin. On en a plus de 1000 matchs ensemble, puis j'ai jamais vu ça.
C'était la quatrième fois que je sache que ça survenait dans la Ligue nationale.
Bon, tu vois, regarde, ça fait 4 fois que ça arrive dans l'histoire de la Ligue.
Oui, dont une fois l'an passé d'ailleurs, mais je pense que c'est en saison régulière.
Oui, en saison régulière, en série. Écoute, il y a plusieurs
éléments. Non, le théâtre, c'est pour ça que c'est amplifié comme ça. Là.
Oui, exactement. Il y a plusieurs éléments. Moi, la chose que je pense que les directeurs généraux l'ont échappé quand on leur a proposé de réévaluer cette situation-là il y a quelques mois passés, ou quelques semaines, là, en tout cas dans la dernière réunion de directeurs généraux où on disait... On aimerait que les arbitres aient l'opportunité d'aller à la reprise vidéo pour appeler un 5 minutes, une pénalité pour tentative de blessure. Une pénalité majeure, en fait.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ouais. Non, c'est pas... non. Ben écoute, le jeu va tellement vite.
Oh oui, les gars ont besoin d'aide.
L'enjeu est tellement grand. Le rythme de tous les joueurs sont plus rapides.
Penses-tu que c'était juste pour les arbitres d'être finalement suspendus du reste des séries, tel que Ron nous l'apprenait en primaire hier?
Ben, écoute, c'est un peu la culture, c'est que si tu l'échappes, toi aussi, tu vas être éliminé. C'est comme ça que tu maintiens un niveau d'excellence, un niveau de performance.
C'est drôle, j'ai eu l'impression que ça avait même influencé le travail des officiels dans le match d'hier.
Moi aussi.
Hein?
Moi aussi.
Oui, hein?
Parce que
t'as vu, d'ailleurs, il y a eu une iniquité. Heureusement que la série s'est pas décidée là-dessus. C'est qu'il y a une rondelle envoyée dans les estrades par Washington en prolongation que l'arrêt de jeu a pas été pénalisé. Et par la suite, Caroline a dû se défendre en circonstances semblables.
Ouais.
Juste un exemple. Passons à une autre situation. Bilan des Leafs de Toronto. Oui, t'allais dire, Johnny?
Non, c'est beau. J'ai dit OK.
OK. Alors, les Leafs de Toronto, je t'ai fait entendre d'entrée de jeu. Ça va lancer la discussion. On traduira ensuite. Kyle Dubas, dans son point de presse, qui répond à la question à savoir s'il peut confirmer que c'est sûr que ça concerne surtout Mike Babcock, à qui il reste encore 4 années de contrat, et Nazem Kadri seront de retour l'an prochain, mais écoute bien la réponse jusqu'à la fin.
Are you decided that Mike will definitely be a part of this team next year and that Naz will definitely be a part of this team next year?
I think for the way that I look at that, Bruce, is that, you know, Shanny has to decide on me first and do an evaluation of me. which I think any organization would be best to do. And then once that's done, we evaluate everybody. And that's, we could win the Stanley Cup, and it would be the same discussion of evaluating where we're at and are we content and are we moving in the right direction. So I think with how fluid the situation is, I wouldn't give any guarantee to anybody in our whole organization, starting with me.
Incroyable. Il ne confirme pas personne qui sera de retour l'an prochain. Il ne se sent pas en situation de pouvoir le faire. Écoute, ça fait rien qu'un an qu'il est là. Est-ce que tu penses qu'il a joué franc-jeu en pensant que lui, il est sur le hot seat, comme on dirait, ou que son travail peut-être n'est pas apprécié de son entraîneur et de Shanahan au-dessus de lui, ou tu penses qu'il dévie tout simplement la question sur l'avenir de Babcock parce qu'il y a un malaise et qu'il ne peut pas éventer au grand jour?
Écoute, c'est une question à un million à laquelle j'ai pas la réponse, mais si je lis entre les lignes, parce que habituellement le directeur général, lorsqu'il se présente, il est bien en selle.
Ben, j'ai l'impression.
Donc, moi, mon impression, c'est qu'il a voulu un petit peu éliminer c'est lui ou c'est moi, parce que c'est très, très comme ça à Toronto depuis déjà plusieurs mois. Les allégations sous-entendent que les deux, ça fonctionne pas très bien. Donc là, en même temps, ça me dit, est-ce qu'il est en train de dire publiquement, ben là, si le président me donne le mandat, moi, je vais m'occuper du reste après. C'est un peu ce qu'il dit, là, en ouais. Dire, ben là, ça marche pas, il va peut-être avoir un choix à faire. Je sais pas si c'est ça qu'il veut dire.
Je sais pas si
c'est peut-être clair. Peut-être que c'est clair, juste pour terminer mon affaire, pour que je me fasse
bien
pas taxer de dire quelque chose que j'ai pas voulu dire, là. Peut-être que c'est simplement aussi la question hiérarchique. Tu sais, dire, regarde, c'est comme ça que ça se passe. Puis, c'est comme ça que ça va se passer chez nous. On va évaluer à partir du patron, c'est-à-dire moi. Ensuite, ceux qui sont en dessous de moi, et ainsi de suite. Mais la saga ne fait que commencer, mon cher.
J'ai bien l'impression, mais je suis à peu près convaincu qu'il fera pas ses 8 années de contrat à Toronto, Babcock.
Oui.
Mais je me demande si Shanahan est content de sa nomination de Dubas dans toute cette équation-là, ou s'il trouve que finalement, ça peut être un geste si heureux que ça. On le saura bien ces prochains mois. Merci beaucoup, Danny.
Un plaisir.
À très bientôt. On revient avec Marc-Édouard Vlasic en entrevue, Jean-Jacques Daigneault également.